peux vous poser une question? Oui, encore. Il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous faisiez si vous étiez né le 2 octobre 1976? 1976. 2 octobre 1976. Vous ne savez pas ce que vous faisiez? Effectivement, c'est dur de savoir, hein? À moins que ce soit le jour de votre mariage. Et c'était le jour de mon mariage. J'ai l'impression que j'ai fait un exploit, là. Mais je crois que celle qui a fait un exploit, c'est Dina, je crois. C'est surtout elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là-haut? Ben, je vais pouvoir parler d'elle. Il y en a qui s'en souviennent. Il y en a qui sont ici et qui en faisaient partie. Hein, Lily? Ouais. Il y avait Roland et Régine. Ils sont là, Roland et Régine? Ils ne sont pas là. Il y avait Françoise et André aussi. Donc c'était une journée très particulière. Ça s'est passé en Angleterre. Il faisait peut-être pas aussi beau qu'aujourd'hui. Mais là-bas, on peut dire que même si c'était moins beau qu'ici, c'était très beau. C'était très beau, il y avait un mélange de culture italienne, culture anglaise. Donc la cérémonie a été dans une église italienne, et puis le repas dans un restaurant anglais. Alors l'avantage avec les restaurants en Angleterre où le repas à l'occasion d'un mariage, c'est que ça ne dure pas 6 heures ou 7 heures comme en France, vous voyez. En 1 heure et demie, c'était fait. Et on a pu finir la fête chez David, mon frère, puisqu'il habitait pas très loin, et c'était le jour de son anniversaire. Voilà, on a fait une double fête ce jour-là. Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse lui souhaiter. Ah, vous savez, aujourd'hui, on peut tout faire. Donc, je vais lui envoyer une photo de vous ici, vous le saluez. Allez-y, levez la main, on va lui envoyer joyeux anniversaire, ouais. On va lui envoyer ça. C'était en plus l'anniversaire de mon petit-fils hier, 1er octobre, 15 ans. Il est là, Neil? Il n'est pas là? Il fête encore? Eh oui, imaginez. Le vieux, il peut vous parler ce matin, pas de problème. Il peut vous parler du mariage, notamment. On ne va pas parler du mariage, on va parler d'une alliance ce matin. L'alliance, le mystère de l'alliance. Vous aimez bien les mystères? Je ne sais pas. Non? Oui. Je ne parle pas des glaces, hein, mais... on va donc parler du mystère de l'alliance. Ce mot est plusieurs fois utilisé dans le Nouveau Testament, par Jésus ou par les apôtres. Jésus, on parlera lorsqu'il dira, vous savez, au moment où il va donner la parabole du semeur, il va donner l'interprétation de cette parabole et il dira, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Dans un autre texte, il nous est dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Paul parlera du mystère de Christ ou du mystère de l'Évangile. Ce mot est un mot intéressant parce qu'on pourrait penser que quand ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, il s'agit quelque chose qui est complètement inconnu, inaccessible pour nous, et donc on ne peut pas connaître ce qui peut être vrai, bien évidemment, pour un certain nombre de réalités concernant Dieu, parce que Dieu gardera certainement une part de mystère pour nous tous. Si on veut parler, par exemple, de la Trinité, c'est quelque chose de bien mystérieux, et il y a bien des choses qui nous échappent, Mais quand le Nouveau Testament parlait du mystère de l'Évangile ou du mystère de Christ, ce n'était pas pour nous dire que c'était quelque chose qui était inaccessible à l'homme, même si c'est inaccessible par l'intelligence humaine. Mais en fait, ce n'est pas le mot qui aurait dû être traduit à partir du mot grec qu'on aurait pu traduire notamment par « secret ». Un secret, je ne sais pas, comme vous savez, ce qui arrive parfois au moment d'un anniversaire, on peut décider de faire une surprise à celui qui va fêter son anniversaire. Alors, ça a été le cas, je me souviens, avec Muguette, notamment, vous vous souvenez, quand Muguette a eu ses 70 ans, je ne sais plus. Oh, pardon. C'est une année importante. Et toute la famille a fait organisé une fête, mais la seule qu'il ne savait pas, c'était Muguette. C'était un secret pour elle, mais pas pour les autres, en fait. Tout le monde le savait. Et elle a eu une belle surprise, en fait, une très belle surprise, une très belle fête. Puis c'est un peu la même chose avec ce mot mystère dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose que Dieu avait gardé, comme ça, caché pour un temps, et puis qu'à un moment donné, il a révélé. Quand c'était le moment de la fête, au moment de la venue de Christ, bien tout a été révélé, en fait. C'était le moment où il fallait montrer ces choses et célébrer cela. Ça a été révélé progressivement dans l'histoire, avant la venue de Christ, mais on peut dire que, ce que Dieu avait caché pendant des siècles, il l'a pleinement révélé au travers de Christ. Donc, mais pendant un temps, c'était un mystère qui n'était pas pleinement révélé. Il y avait des énigmes autour de cette alliance entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, ce qui va concerner l'essentiel du message de l'Évangile. On va d'abord s'intéresser au mystère dans cette alliance, donc ensuite le mystère révélé. Et puis on verra dans une dernière partie les conséquences que ce mystère révélé a pour nous, pour l'Église. D'abord, le mystère dans cette alliance. Je vais commencer par une question. Décidément, je vous aurais posé beaucoup de questions aujourd'hui. Question à laquelle je vous invite à répondre. Pour vous, les promesses de Dieu ou les bénédictions de Dieu sont-elles conditionnel ou inconditionnel? Est-ce que pour nous les donner, Dieu attend qu'on réponde à certaines conditions ou qu'il n'y a pas de conditions pour nous les donner? Alors, ceux qui pensent que les promesses de Dieu sont conditionnelles, vous levez la main. Voilà, 2, 3, quelques-uns. Et ceux qui pensent que les promesses de Dieu sont inconditionnelles, vous levez la main. Ouais, il y en a beaucoup plus. Alors, ceux qui pensent que les... Vous n'avez pas grillé mon effet, vous. Ceux qui pensent que les promesses de Dieu sont inconditionnelles, ce qui était la majorité, vous avez raison. Alors, pour les autres qui étaient très minoritaires, ceux qui pensent que les promesses de Dieu sont conditionnelles, eh bien, vous avez aussi raison. C'est bien ce genre de jeu où tout le monde a raison, vous voyez, où personne ne perd. Vous aimez ce genre de jeu? Moi, je joue tous les jours à ça. Donc, vous avez tous raison. Mais en même temps, vous vous dites, si on a tous raison, si on suit la pure logique... La pure logique voudrait qu'il y en a un camp qui a raison et l'autre qui a tort. Parce qu'on ne voit pas comment. Si les promesses de Dieu sont conditionnelles, comment elles peuvent être inconditionnelles? Ou si elles sont inconditionnelles, comment elles peuvent être conditionnelles? Ça, dans la pure logique, ce n'est pas possible. Mais là, bien sûr, ça répond à une autre logique, une logique... divine, on peut dire, une logique biblique, une logique spirituelle, et qui fait que les deux sont vrais et les deux sont possibles. Et en fait, quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, On lit certains textes et on voit que ces promesses, elles sont conditionnelles. Et puis on lit d'autres textes et on voit qu'elles ne sont pas conditionnelles. Vous voulez la preuve? On vérifie quand même, hein, on ne sait jamais. On va vérifier. Alors, j'aurais pu en prendre des quantités de textes. Premier texte, du travers de Moïse, dans Deutéronome 30. Ce que je commande aujourd'hui d'aimer, je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Voilà. Si tu veux prendre, voilà. Tu vas avoir ce pays que je t'ai promis, ben voilà, il faut que tu obéisses. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Donc voilà, si tu obéis, tu seras béni, le pays est à toi, tu prendras possession de cette terre promise. Autre texte, donc là, premier texte conditionnel, et là, c'est pas loin, hein, c'est le chapitre qui vient d'après, c'est toujours Moïse, qui dit « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est à toi, et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte, ne t'épouvante pas. » Il n'y a plus de conditions. Là. Je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voilà, tu posséderas ce pays, je vais devant toi. Ce qui donne un peu plus loin dans le livre des Juges, on est donc après le ministère de Josué, la conquête de Canaan, ce pays a été, le peuple a pris possession de ce pays. Et au chapitre 2, livre des Juges, c'est un texte très très intéressant à cet égard, parce qu'on voit les deux facettes de la même pièce, les deux aspects. Le premier d'abord, où Dieu dira, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Voilà. Je suis avec vous éternellement, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Voilà ce que j'ai promis, promesse inconditionnelle. Et puis, un peu plus loin, au verset 3, on viendra au verset 2 après, il dit, j'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Il dit, voilà, maintenant, parce que vous avez désobéi, ben vous n'allez pas vraiment prendre possession de ce pays. Je ne peux pas vous donner tout ce pays comme je l'ai dit. D'un côté, Dieu dit, c'est inconditionnel, il est là, je suis avec vous, je romprai pas mon alliance. Et puis l'autre côté, il dit, ben, en raison de votre attitude, de votre comportement, ben voilà, les choses ne vont pas se faire et se passer comme ça avait été dit. Et puis au milieu, on a cette réaction de Dieu, qui est très intéressante, et qui dit, c'est au travers d'un prophète que cette parole a été donnée au peuple d'Israël, « Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Et Dieu dit, « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Manière de dire, « Vous m'avez mis dans une situation impossible. Hein ? Comment est-ce que je vais faire maintenant ? J'avais promis de vous bénir parce que vous êtes mon peuple et que je vous aime d'un amour éternel. » Mais j'ai aussi promis de vous bénir si vous m'obéissez. Alors comment est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que c'est possible? Oui. La réaction de Dieu à ce moment-là. Vous voyez le dilemme? D'un côté, Dieu est saint, juste, il ne peut pas tolérer le mal, il faut qu'il punisse la désobéissance. Et puis d'un autre côté, Dieu est amour, compatissant, fidèle à son peuple, quoi qu'il arrive. Vous voyez, ça c'est la grande, grande tension, on a déjà beaucoup parlé, que nous trouvons tout au long de l'Ancien Testament. allait bien sûr à son paroxysme. Certainement, on a déjà vu ce texte, je vous le redonne, dans Exode 34, lorsque Dieu révèle sa gloire à Moïse, qui lui a dit « Fais-moi voir ta gloire », et Dieu passe devant lui, et Dieu lui montre qui il est. Et quand Dieu lui montre qui il est, il lui dit « Voilà, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance ou en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté ou sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Voilà. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu qui bénit de manière inconditionnelle. Mais, ce même Dieu dit « Je ne tiens pas le coupable pour innocent » et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Bénédiction conditionnelle. D'un côté, il y a l'amour de Dieu, de l'autre côté, il y a la justice de Dieu. Quand Dieu exprime son amour et manifeste son amour, il dit à ce peuple, voilà, je te bénirai quoi qu'il arrive, je ne romprai jamais mon alliance avec toi, je serai avec toi. Puis l'autre côté, la justice de Dieu, et Dieu qui dit, ben oui, mais il y a la loi. Et quand la loi a été transgressée, il faut payer. Donc, je punis le coupable. Je ne peux pas laisser le coupable impuni. Vous voyez, dans la même révélation. Et cela, nous le trouvons tout au long de l'Ancien Testament. Texte après texte après texte. Essayons d'aller vers la révélation maintenant de ce mystère. Ce mystère tel qu'il est révélé. C'est-à-dire l'explication, en fait. La nature, d'abord, de cette alliance biblique. Dans cette alliance biblique, il y a toujours deux parties, deux aspects. Il y a un aspect légal et un aspect personnel ou affectif. L'aspect légal met en évidence la loi, et l'aspect personnel ou affectif met en évidence l'amour. D'un côté, dans cette alliance, il y a toujours l'aspect légal, il y a le contrat. Comme dans un contrat, les deux parties signent un contrat, et dans ce contrat, il y a ce qu'on appelle les termes et les conditions du contrat. Vous savez ce qu'il y a en petit dans un contrat, en général ? Qui est en bas de page, ce qu'on ne lit pas toujours, et qu'on doit lire, bien sûr, parce que le jour où il y a un problème, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va être lu et relu et appliqué. Ce sont les modalités du contrat. Comme, par exemple, nous trouvons ces modalités du contrat dans Deutéronome 29, on est toujours dans Deutéronome, où Dieu dit au peuple d'Israël, par Moïse, tu vas entrer dans l'alliance, donc l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, avec le serment qu'il a fait, et que l'Éternel, ton Dieu, conclut aujourd'hui avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, comme il avait fait cette alliance avec Abraham. Un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, versets 18 et 19, « Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dit « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur. » En ajoutant l'ivresse à la soif, l'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. » Voilà. Ça, ce sont les termes du contrat, une partie, bien évidemment. Dans ces termes du contrat, on retrouve bien sûr la nature de Dieu qui est une nature juste. Dieu ne peut laisser impuni celui qui ne respecte pas les conditions ou les termes de ce contrat. Mais dans cette alliance, il n'y a pas seulement le contrat, il y a aussi la partie plus personnelle, l'engagement personnel, affectif, la dimension affective dans cette relation. Qu'est cette alliance ? Un attachement en fait sans faille que Dieu a avec la personne avec qui il fait cette alliance, qui fait qu'il ne peut pas abandonner, et qu'il n'abandonnera pas, et qu'il ne délaissera pas, qui donne ses paroles, Vous les connaissez certainement. Dans Jérémie, par exemple, « Je t'aime depuis toujours et pour toujours. »« Je t'aime d'un amour éternel », dit une autre version. « C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. » Ça, c'est ce qu'il y a dans cette alliance. C'est l'attachement affectif de Dieu pour son peuple. Ou encore ce texte que nous connaissons tellement bien. Quand les montagnes... Hein, on pourrait le chanter, il y en a qui murmurent déjà. Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ça, c'est ce qu'on trouve dans cette alliance. Alors, bien évidemment, quand on lit l'Ancien Testament, et ça a dû être vrai, ça a été vrai, bien sûr, pour les croyants de cette période en Israël, tout dépend sur quoi on s'arrête. Si on s'arrête plutôt sur ces textes qui mettent en évidence la loi et l'importance d'obéir pour être béni, alors on va prendre cette direction-là au détriment de l'autre et on va être dans un déséquilibre. Certainement que pour les croyants de l'Ancien Testament, ça devait être extrêmement difficile d'être équilibré à ce niveau-là. Soit on se met du côté de la loi c'est la première réalité, et l'amour vient en second. Alors oui, Dieu nous aime, mais à la fin, ce qui compte, c'est d'obéir, si on veut être béni. Ça se passe comme ça. Ça a donné par exemple le pharisianisme du temps de Jésus. Ils fonctionnaient exactement là-dessus. Eux, pour eux, il fallait obéir à la loi pour être béni par Dieu. La bénédiction était forcément conditionnelle. Ça a donné le légalisme aussi à travers l'Église. Les chrétiens qui sont légalistes sont les chrétiens qui vivent, qui ont un rapport avec Dieu sur cette base-là, en fait. Alors, on va de l'autre côté, dans l'autre direction. Alors, c'est l'amour qui vient en premier. La principale réalité, c'est celle de l'amour. La loi, oui, la loi est importante, mais au bout du compte, Dieu nous aime et nous aimera toujours, alors peu importe ce qu'on fait, en fait. C'est inconditionnel. Donc Dieu nous aime de manière éternelle. Ça a donné du temps de Jésus, par exemple, j'ai parlé des pharisiens pour la loi, de l'autre côté, il y avait les sadducéens, qui étaient plutôt beaucoup moins nombreux, mais qui est plutôt dans l'autre attitude. Ça a donné un courant dans l'Église qu'on voit apparaître dès le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, lorsque Paul parle de la grâce, et lorsqu'il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui faisait dire à certains, bien, si on veut que la grâce surabonde davantage, allons encore un peu plus dans le péché, vous voyez, dans le mal, ça se terminera toujours bien. Vous voyez un peu l'excès ? D'un côté, il y a le légalisme, et de l'autre côté, il y a le laxisme, l'antinomisme. Ça, c'est ce que l'on a comme déséquilibre dès qu'on penche d'un côté plutôt que d'un autre. Si l'on voit bien évidemment dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus, dans les explications, la théologie que Paul va développer notamment autour du salut, de la grâce, on voit mieux en fait comment les deux peuvent s'articuler sans se contredire. Mais ça commençait déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr. Ces deux aspects dans l'Alliance, d'un côté la loi, l'aspect légal, l'autre côté l'amour, la compassion, la dimension affective dans cette relation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit poindre dès le début, en fait, au travers de cette rencontre que Dieu va faire avec Abraham. A donné ce texte dans Genèse chapitre 15, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, et Je ne veux donc pas m'étendre énormément sur cette rencontre, mais c'est l'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Dieu, vous savez, c'est le chapitre dans lequel Dieu dit à Abraham, « Regarde les étoiles dans le ciel et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. » Et Abraham dit, « C'est bien Seigneur, mais est-ce que tu ne peux pas me donner un élément pour croire cela, quelque chose ?» Et Dieu va dire, « Ok, on va faire un contrat ensemble. » Selon la coutume de l'époque, bien évidemment. Et c'est là que Dieu va lui demander de prendre des animaux, de les tuer, de les couper en deux. Et vous savez comment il a fait, voilà, il les a mis face à face et qu'il a fait une allée en laissant un espace entre ces animaux qui avaient été coupés, placés sur le sol. Et dans ce genre de coutume au Moyen-Orient, quand il y avait ainsi un contrat, une alliance entre deux parties, il y avait toujours un inférieur et un supérieur, en fait. Un inférieur et un supérieur, il y avait un seigneur, un vassal, par exemple, et ils faisaient ensemble une alliance. Mais celui qui s'engageait vraiment dans cette alliance, c'était toujours l'inférieur, en fait, le subordonné. Et donc, c'est lui qui passait entre les animaux, et en faisant cela, il disait que s'il ne respectait pas les termes du contrat qu'ils avaient fait ensemble, eh bien, qu'il devait lui arriver ce qui était arrivé aux animaux, c'est-à-dire la mort. Et dans ce genre de coutume, c'était toujours le subordonné. Le supérieur, lui, le seigneur, lui, il ne faisait pas, lui. Ce qui faisait que l'inférieur ou le subordonné était, le serviteur notamment, était toujours perdant. Il était perdant parce que si lui, il ne respectait pas les termes du contrat, ben, lui, il était puni. Et si le seigneur ne respectait pas les termes du contrat, le seigneur n'était pas puni, mais bien évidemment, le serviteur, lui, était privé de quelque chose, puisqu'il n'avait pas fait ce qu'il avait promis, ce que le seigneur avait promis. Donc, dans tous les cas, le petit était perdant. Alors, vous imaginez, dans ce contexte, lorsqu'Abraham a compris que Dieu voulait faire quelque chose de semblable pour sceller cette alliance ensemble, lui, Abraham, s'est dit une chose, celui qui va passer entre les animaux, ce n'est pas Dieu, bien sûr, c'est moi. Forcément, c'est le plus petit, Abraham. Là, il n'y avait pas de doute. Entre les deux, Abraham, c'était l'inférieur. Donc Abraham s'attendait à ce que Dieu lui dise, « Maintenant, tu passes. » Moi, je ne passe pas, moi. Moi, je n'ai pas besoin de passer. Et vous connaissez l'histoire. C'est l'inverse qui va se passer. C'est Dieu qui va passer. C'est Dieu qui va s'engager. C'est Dieu qui va prêter serment. Et qui va jurer de bénir Abraham. Abraham ne va pas passer par les animaux. Donc, Dieu est en train de dire quelque chose à ce moment-là. Dans cette alliance, Dieu a fait serment, et pas le serviteur, en tout cas, pas de la même manière. Dieu s'engageait pour les deux parties, si l'une des parties ne respectait pas l'alliance, si c'était Dieu, ben, c'est lui qui serait puni, il n'y avait pas de risque de ce côté-là, mais même si c'était Abraham, eh ben, ce serait Dieu qui serait puni. Et là, on commence à voir la solution poindre, en fait, pour réunir les deux dans cette alliance. Et ça, c'est quelque chose qui va être révélé progressivement pour apporter toute sa lumière dans le ministère de Jésus, comme vous le connaissez, au moment où Jésus va être crucifié. Quand Dieu va faire cette alliance avec Abraham, il va y avoir les ténèbres à ce moment-là. Et on retrouve la même chose au moment de la crucifixion de Jésus. Les ténèbres vont s'abattre à ce moment-là. On était en plein midi. Et il va y avoir les ténèbres. Il y avait les animaux qui étaient coupés. Là, c'est Jésus qui a été coupé, entre guillemets. C'est Jésus qui a subi le sort de ces animaux, en fait. Non pas parce que Dieu n'avait pas respecté les termes du contrat, mais parce que l'homme n'avait pas respecté, bien évidemment, les termes du contrat. Ces animaux étaient mis en morceaux, en fait. Dans l'œuvre de Christ, c'est Jésus qui va être mis en morceaux, en lambeaux, on peut dire. Après avoir été flagellé, après avoir été cloué, après avoir reçu cette couronne d'épines sur la tête, d'être percé par une épée. C'est vraiment lui qui a été coupé, en fait. C'est pour cela que Paul dira que Christ nous a rachetés par la malédiction de la loi. La malédiction, ça veut dire la punition, le jugement, la condamnation, en fait. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Voilà pourquoi il fallait qu'il soit crucifié. Portait cette malédiction. Dans cette alliance, donc, Christ a complètement satisfait toutes les exigences de la loi, de sorte que Dieu puisse nous aimer de manière inconditionnelle. Ça veut dire que Dieu respecte toujours la loi, que les bénédictions sont forcément conditionnelles. Les conditions ou les termes de ce contrat, c'est Jésus qui les a accomplis. Et afin que nous puissions être aimés de manière inconditionnelle. Par sa vie et par sa mort, il a obéi à tous les termes du contrat de la loi, en fait. Par sa vie, bien sûr, en obéissant à tout ce que la loi demandait. Et par sa mort, bien sûr, en payant pour tous ceux qui n'avaient pas obéi. Afin de nous donner ce salut de manière gratuite, inconditionnelle, en fait, on peut dire. Cela, bien sûr, c'est ce qui va donner comme résultat, voire pour conséquence, et on passe au troisième point, ça va donner l'Église. C'est-à-dire vous et moi, l'Église. Paul, dans un texte d'Éphésiens, parle de l'Église dans ces termes. Il dit que l'Église, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si vous considérez comme cela. L'Église, c'est le résultat de la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour essayer de comprendre ce que Paul veut dire, on pourrait prendre une image, l'image d'un peintre, d'un artiste peintre qui est devant sa toile. Il y a certainement des peintres ici, il y en a qui aiment peindre. Imaginons un artiste peintre qui est devant sa toile, mais l'artiste, c'est Dieu lui-même. Alors, il faut vraiment l'imaginer, là. Et son but, au travers de cette toile, c'est de révéler ce qu'il est vraiment, de révéler sa sagesse. C'est ce que fait en général l'artiste, il fait ressortir ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et Dieu fait cela. Il sait qu'on ne peut pas le voir, il est invisible, donc il va révéler ce qu'il est au travers de ce qu'il fait, au travers de son chef-d'œuvre. Sa toile, à lui, c'est en fait tout l'univers. Elle est grande, la toile. Et nous, on est dedans, nous. Et Dieu a des millions et des millions de couleurs différentes, de nuances pour apporter des variations. C'est une peinture de l'univers qui est aussi ancienne que la création, mais qui va dans l'éternité aussi. C'est la toile, on peut dire, de l'histoire de l'univers. Et au centre, au cœur même de cette toile, il y a l'Église. Il y a vous, il y a moi. Et pour peindre cette Église, Dieu utilise les couleurs multiples, pour révéler la grandeur, la beauté, la diversité, l'unité, les différents aspects de cette Église. Et si on peut donner cette image pour parler de Dieu et de l'Église, c'est parce que le terme que Paul utilise quand il parle de cette sagesse infiniment variée. Il utilise un seul mot, en fait, il en fait un, en fait. Un mot unique, qu'on trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, et qui peut être traduit par beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances, beaucoup de variations, beaucoup de complexité, en fait. C'est ce que Dieu est en train de faire pour révéler sa sagesse. Et nous sommes le résultat, le fruit de cette alliance, en fait, dont Dieu a parlé. Et cela, bien sûr, va faire de cette Église un groupe particulier, des gens différents, qui ont une histoire particulière. Parce que notre histoire aujourd'hui, elle fait partie ou elle entre, nous entrons dans l'histoire de ce que Dieu a fait. Quand on lit la Bible aujourd'hui, moi quand je lis la Bible, je lis mon histoire. Ça fait partie de mon histoire maintenant. Je fais partie de cette histoire. Ce que Dieu raconte là, c'est ce qu'il a fait pour moi, comme pour vous. Donc forcément, de faire partie de ce groupe, de cet ensemble, d'être le résultat de cette œuvre que Dieu a accomplie, va faire de nous des gens particuliers, des gens différents. Un peuple. Un peuple qui est le peuple de Dieu. Les caractéristiques de ce peuple, donc le mystère et ses conséquences, c'est d'abord que, du fait de notre histoire, de ce que nous savons maintenant, si on a bien saisi ce qu'est l'Évangile, cet équilibre entre d'un côté la loi et l'amour, entre la justice et la grâce, ça veut dire que j'aurai un désir immense d'obéir à la loi de Dieu. Si j'ai vraiment saisi cela, si je fais partie de ce peuple, si je suis là, ce que Paul appelle la sagesse infiniment variée de Dieu, là, le résultat de cette sagesse avec toutes ses couleurs, ça veut dire que je vais avoir un attachement viscéral avec la loi de Dieu, avec la volonté de Dieu. Je vais désirer au plus profond de moi-même obéir à cette loi. Si j'ai saisi le mystère de Christ, en fait, le secret que l'Évangile me révèle. Avant, je pouvais faire partie de ceux qui regardaient la loi en premier, considéraient que c'était le plus important, comme la religion en général, et que je devais obéir à cette loi si je voulais être aimé ou accepté par Dieu. Ou avant, je pouvais regarder l'amour de Dieu, j'en ai entendu parler, l'amour de Dieu, cet amour immense, et je regarde ça en premier, pour faire un peu ce que je veux aussi. Parce que peu importe ce que je fais, peu importe la loi, Dieu finira toujours par m'aimer, et s'il m'aime, il me sauvera de toute façon. Vous voyez, je pouvais être soit dans un camp ou dans un autre, dans un courant ou dans un autre. Aujourd'hui, grâce à l'Évangile, je comprends que les conditions de la loi ayant été obéies, vous voyez les termes, les conditions de la loi ayant été obéies par Jésus, au travers de son sacrifice, de sa vie d'abord et de sa mort en sacrifice, afin que son amour pour moi soit inconditionnel. Si je sais cela, si j'ai vraiment compris cela, quelle va être ma réaction? Je ne peux plus dire à ce moment-là, j'ai plus besoin d'obéir à la loi. Dans un sens, j'ai plus besoin d'obéir à la loi pour être sauvé, puisque Jésus a obéi à la loi. Mais parce que je sais ce que Christ a payé pour ma désobéissance, je vais donc regarder cette loi, mais je vais la regarder très, très au sérieux. Enfin, je vais me dire, On ne peut pas rigoler avec ça. Quand je vois ce que Jésus, et on va se rappeler de cela encore ce matin en partageant ce repas de Sainte-Cène, quand je vois ce qu'il a payé et ce qu'il a souffert, je ne peux pas prendre la loi à la légère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors oui, je n'ai pas besoin d'obéir à la loi pour avoir la bénédiction de Dieu. J'en ai pas besoin. Mais j'ai besoin d'obéir à la loi, ne serait-ce que pour remercier Dieu, en fait. Ne serait-ce que pour lui être reconnaissant de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il a fait pour moi. C'est pour cela que je veux obéir à la loi. C'est pour cela que j'ai besoin d'obéir à la loi. Non pas parce que c'est une condition à mon salut aujourd'hui. Mais comment est-ce que je peux faire autrement si j'ai compris ce qui a été fait et accompli? Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas prendre la loi de Dieu à la légère. Je ne peux plus dire « non, ce n'est pas grave, oh, Dieu finira par m'aimer ». Je ne peux plus dire cela. Donc mon obéissance à la loi n'est jamais plus pour essayer d'être sauvé. Jamais plus. Il y a encore des chrétiens, malheureusement, qui pensent ça. Quand on les voit agir, fonctionner, quand on les voit réagir, on se dit « oh là, il y a un peu de ça encore ». Non, non, il faut balayer cela. Christ a obéi à la loi, il a payé le prix de la loi pour que nous puissions être sauvés et acceptés gratuitement. Donc si j'obéis à la loi, ce n'est pas pour ça. Parce qu'il a obéi à la loi et il a payé cher ma désobéissance. Et que moi, je ne peux pas faire autrement maintenant que de vouloir, désirer, aimer, obéir à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Et s'il m'arrive de tomber, car tout Daniel Leroux que je suis, je tombe comme vous, je chute, je désobéis. Grâce à cela, je ne suis pas dans la condamnation. Je peux être et je dois être dans la repentance, oui, mais pas dans la condamnation. Ça fait une grande différence. C'est là que l'Évangile nous aide à garder cet équilibre entre la loi d'un côté et l'amour de l'autre côté. Ce mystère qui a été révélé par Christ, qui est une énigme absolue sans Christ, bien sûr, qui est on peut pas, irréconciliable. S'il n'y a pas Christ, on ne peut pas réconcilier les deux. C'est Christ qui a réconcilié les deux. Donc, résultat de cette alliance de Christ avec nous, ce mystère révélé, ça veut dire que je vais avoir une envie dingue, allez, utilisons les mots, folle, d'obéir à la loi de Dieu. Et on voit que quelqu'un comme le roi David, il avait déjà saisi cette dimension-là. Parce qu'on voit l'amour qu'il avait pour la loi de Dieu. L'amour! Autre conséquence, si on a bien saisi ce qu'est ce mystère révélé en Christ, cette alliance, d'abord, un amour véritable pour la loi de Dieu, désirer obéir à cette loi. Deuxièmement, ça va nous donner une confiance totale dans cette relation avec Dieu, une sécurité. Une paix. Vous savez, quand vous faites une alliance avec quelqu'un, comme le jour de votre mariage, le jour de mon mariage il y a 40 ans, je me suis engagé auprès d'une personne et elle s'est engagée auprès de moi. Mais il y a 40 ans, le jour où nous faisons cela, Comment être certain que ça va durer 40 ans, au moins? J'espère que ça va durer un peu plus maintenant. Comment être certain? Vous connaissez suffisamment la personne avec qui vous vous mariez pour dire, hop, pas de problème, 40 ans, on les fait. Hein. Vous vous connaissez suffisamment pour dire, oh, moi, ça peut durer 40 ans. Hein. Impossible. Impossible. Et puis, c'est bien ce qu'on voit. Hein. Quand on voit le nombre d'échecs, on voit bien que c'est pas sûr. On voit bien que c'est fragile. Comment est-ce qu'on peut être sûr dans cette alliance qu'est le mariage, dans laquelle il y a les deux aspects. Hein. Si c'est le mariage, il y a l'aspect légal, pour nous c'est la mairie, c'est le mariage civil, et puis après, à côté, il y a l'aspect affectif, sentimental. Alors l'aspect légal, il vient renforcer l'aspect affectif, bien évidemment. Mais comment être sûr? C'est pas sûr. La différence avec Christ, c'est lorsqu'on s'engage avec lui, c'est déjà gagné d'avance. C'est certain. On a une sécurité. Il a déjà payé. Vous savez, dans cette relation entre Christ et nous, dans une relation, dans un couple, je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a un qui désire plus l'autre que l'autre. Que l'autre, je pense qu'ils se désirent mutuellement. Mais dans notre relation avec Christ, moi, je n'hésite pas une seconde. Qui est-ce qui désire plus cette relation? C'est vous? C'est moi? C'est Christ qui désire. Nous, on désire, oui, on désire. Mais est-ce qu'on désire au point, au niveau du désir de Dieu pour nous? Certainement pas. Dans cette relation, celui qui désire le plus cette relation, c'est Christ, c'est pas nous. Parce que lui a déjà donné la preuve. Il a donné la preuve de son désir, la preuve de son engagement. Lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est venu sur cette terre, lorsqu'il a donné sa vie. Nous, est-ce qu'on a donné cette preuve? Nous, on s'est engagé. Bien sûr. Mais que ferions-nous? Posons-nous la question ce matin, si l'on devait payer de notre vie, notre foi dans la personne de Jésus, notre relation avec lui, si on devait payer cela de notre vie aujourd'hui. On peut le faire. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup à travers l'histoire qui l'ont fait. Comme cette jeune fille de 17 ans, Rachel Scott. J'ai pris cet exemple parce que j'ai rencontré ses parents. C'était en 1999. Elle était dans une école, un lycée, à 17 ans, à Columbine. Et vous vous souvenez peut-être ce terrible massacre qui a eu lieu avec deux jeunes élèves qui sont venus en plein midi dans ce lycée avec des armes et qui ont tué 12 étudiants plus un professeur. Et Rachel était la première victime. Elle était en train de prendre son déjeuner sur l'herbe du campus, lorsque ces meurtriers sont arrivés, armés. Ils l'ont reconnue, la connaissaient, et ils savaient qu'elle était chrétienne et engagée. Un des deux a tiré une balle qui l'a blessée. Puis il s'est tourné vers elle en disant, « T'es toujours une chrétienne maintenant? Allez, dis-nous si t'es une chrétienne. » Elle dira, « Oui, oui, je suis, je resterai. » Et il lui a mis une deuxième balle dans la tête. Elle avait 17 ans. J'ai rencontré ses parents. Ils sont venus à une conférence du livre de vie, des gens engagés, ils ont témoigné de leur fille, et de sa foi. Il y a un livre qui a été écrit, son journal intime, une partie a été publiée. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? Ce qui nous donne cette garantie et cette certitude, c'est l'engagement de Christ pour nous. C'est lui qui désire cette relation. C'est lui qui veut cette relation plus que tout. Il la veut tellement qu'il a tout donné et il a tout sacrifié pour qu'on puisse être ensemble. Parler de quelqu'un qui nous aime. Peut-être vous êtes triste parce que vous avez le sentiment que personne ne vous aime ce matin. Et peut-être c'est vrai, sur le plan humain, vous n'avez peut-être pas grand monde. Mais sachez que si vous êtes en Christ, vous êtes la personne la plus aimée au monde. Par le plus grand de tous. Deuxième conséquence, donc, cette totale confiance dans cette relation que nous pouvons avoir avec lui. C'est une relation qui peut vraiment durer. Ce que lui peut nous donner dans ces moments difficiles, dans ces moments critiques, la force que nous n'avons pas, bien sûr. Alors, bien évidemment, si on se projette dans des situations comme celles que j'ai racontées, on ne peut pas dire... Et qui oserait dire, bien sûr. Mais à ce moment-là, on peut compter sur l'aide et le soutien que Dieu nous donne dans ces moments-là. On se rappelle d'Étienne et ce que Dieu a fait pour Étienne, pour l'aider. Troisième conséquence, et on terminera avec celle-ci, c'est que cette relation avec Christ... Cette alliance, telle qu'elle est révélée dans la Bible, elle aura aussi pour conséquence de nous amener ou de créer ou susciter le besoin d'appartenir à l'Église. Et pas d'appartenir à l'Église juste spirituellement, mais d'appartenir à l'Église lorsqu'elle est incarnée, comme ici, dans un groupe d'hommes et de femmes qui confessent la même foi. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, peu importe sa taille. Une fois que l'on a compris ce qu'est l'Évangile, il y a un mot qui nous fait plus peur et qui fait terriblement peur dans notre société actuellement. Un mot qu'on utilise peu en français, beaucoup en anglais, c'est le mot redevabilité. On se sent redevable aux autres. On n'aime pas être redevable. Pas dans notre culture d'aujourd'hui. Pas dans l'individualisme ambiant. On veut avoir de compte à rendre à personne. On veut faire nos propres choix et ne pas être redevable à qui que ce soit. Si on a compris ce qu'est vraiment l'Évangile, alors oui, ce mot redevable n'est pas un gros mot. Non, ça devient même une nécessité. Dans la Bible, on le voit que ceux qui avaient... fait cette alliance avec Dieu, et cette alliance dans le cadre du peuple d'Israël faisait qu'ils appartenaient à un peuple, et qu'ils étaient redevables à ce peuple. Ce qui fait que, en fait, l'alliance avec Dieu, dans laquelle il y a à la fois l'aspect légal, et l'aspect affectif, comme on le voit par exemple dans le mariage, dans l'adoption d'un enfant, dans la relation parent-enfant, particulièrement lorsque les enfants sont mineurs, il y a l'aspect légal et l'aspect affectif. Eh bien, c'est aussi la même chose que nous sommes appelés à vivre sur le plan de l'Église locale dans nos relations les uns avec les autres. Vous savez, on le dit parfois, on regrette parfois et on le sent en tant que pasteur qu'il y a des chrétiens dans l'Église qui sont devenus des chrétiens consommateurs. Ce sont des consommateurs. C'est-à-dire que la relation qu'ils ont et qu'ils veulent avec une église, c'est une relation commerciale, entre guillemets. C'est quoi la relation commerciale ? Elle peut être bonne, elle est même nécessaire, cette relation commerciale. Avec des tas de personnes que vous rencontrez peut-être tous les jours, vous avez une relation commerciale. Vous allez chez votre petit fromager préféré du marché d'Angers, par exemple, ou votre petit charcutier ou poissonnier. Vous voyez, celui chez qui vous allez tous les samedis, là, ou chaque fois qu'il y a un marché, vous y allez. Et vous l'aimez bien, celui-là. Oh, puis vous discutez, passez un petit moment avec lui, vous donnez des nouvelles, vous parlez du temps, la pluie du temps, bien évidemment, on commence toujours comme ça. Et c'est qui, cette personne ? C'est un frère ? C'est une sœur ? C'est un mari ? C'est une femme ? Non. C'est un commerçant. C'est-à-dire que c'est une connaissance. Alors après, de cela peut devenir une amitié, on peut même finir par se marier des fois, enfin, je ne sais pas. Dans les plus belles histoires, mais de manière générale, ça n'arrive pas à chaque fois. Il vaut mieux pas, même. C'est une relation commerciale. Ça veut dire quoi, une relation commerciale ? Vous aimez bien ce petit fromager, mais si à un moment donné, vous sentez que ces fromages ne sentent plus aussi bons qu'avant, ou ils sont un peu trop chers pour l'odeur qui ressortent, eh bien, vous allez chercher un autre fromager. Bien sûr. Et vous êtes libre de le faire. Et personne ne va vous critiquer pour cela. Ben, vous voyez, pour beaucoup, l'Église est devenue un petit fromager. On y va parce que, bon, ça nous plaît. Ça sent bon, on mange bien, c'est pas cher. Mais si à un moment donné, à ce niveau-là, c'est pas tout à fait ça, alors on va chercher un fromager à l'extérieur ou ailleurs. On est dans une relation commerciale. Mais c'est pas ça qu'on trouve dans le Nouveau Testament lorsqu'il est question de ces chrétiens qui sont ensemble. L'image ne pouvait pas être plus forte que celle de parler de la famille chrétienne. Vous savez, quand j'appelle, quand vous m'appelez, il y en a plusieurs qui le font, et je sens que c'est fait dans cet esprit-là. Daniel, bonjour, mon frère. Je sens qu'on est dans une relation. Ce n'est pas une relation commerciale. On est dans une relation d'alliance, dans laquelle, comme dans une famille, bien sûr, et c'est comme ça que ça se passe dans votre famille et dans les familles qui fonctionnent normalement, on se sent redevable, on se sent uni, on se sent proche. La famille, on ne change pas de famille parce qu'on a envie de changer de famille un jour, on dit « oh là, on passe à une autre ». Non, on garde cette famille, bien sûr on la garde, même quand ça ne se passe pas bien. Parce qu'on ne peut pas changer de famille comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si on peut, bien sûr, ce n'est pas toujours possible. On travaille pour que la famille, à nouveau, puisse être unie, qu'elle puisse aller mieux. On y apporte quelque chose. C'est un effort, ça prend du temps, des fois des larmes. Mais ça vaut la peine. Quand vous voyez des familles se réconcilier après des fois des années de séparation, ça vaut la peine. Pourquoi est-ce que l'image de la famille a été prise pour parler de l'Église? C'est bien pour nous dire, mais attendez, dans cette relation que vous allez avoir, il y aura cette dimension. L'alliance fraternelle. cette alliance qui fait que on se sent redevable et on sent qu'on appartient à un groupe. Déjà, dans notre engagement du baptême, il y a une dimension, on peut dire, légale que nous donnons lorsque publiquement nous confessons. Dans notre engagement avec Christ, c'est d'abord notre engagement avec Christ, mais dans le cadre d'une église. Vous avez vu que depuis quelques années, j'ai mis en place qu'à chaque fois qu'on a un service de baptême, on a un moment aussi, on s'arrête et on a un temps de prière pour que ceux qui s'engagent dans les eaux du baptême et qui entrent dans cette église sachent aussi que nous nous engageons avec eux et que nous entrons dans une alliance. Parce que ça, il faut que ça existe. Le problème, c'est qu'on est dans une ambiance culturelle qui ne favorise pas cela, de moins en moins. Donc il faut le marquer. Il y en a qui l'ont naturellement, il y en a qui l'ont spontanément, mais il y en a qui ne l'ont pas, ça, du tout. Pas du tout. Et croyez-moi, quand vous aurez des besoins, quand vous serez mal, ça fera toute la différence à ce moment-là. Quand on est souffrant, quand on est malade, quand on est seul, on peut appeler quelqu'un et on sait qu'ils vont être là. Ils seront là à nos côtés et prieront avec nous. Alors on aura pleuré ensemble et on se réjouira ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça doit se passer normalement dans toute église. C'est comme ça que ça doit rester. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas ce sentiment d'appartenance très développé, je vous encourage à vous mettre devant Dieu et dire voilà, il faut que je sache à qui j'appartiens, à quel groupe j'appartiens. Parce que j'en ai besoin. Parce que le modèle d'alliance que j'ai avec Dieu, c'est justement un modèle pour me montrer quel genre d'alliance je peux avoir avec les autres. Un modèle dans lequel je m'engage véritablement. Vous savez, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'allergies à ce qu'on appelle l'institution. Et l'Église est une forme d'institution. Toute Église locale, il y a de l'institution, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on veut être vraiment spirituel, on veut la spiritualité uniquement et sans relation fraternelle. L'institution a été voulue par l'Église. L'Église locale, c'est Jésus qui l'a voulu, sur cette terre, c'est-à-dire avec toutes ses contingences. Oui. C'est la colonne vertébrale. C'est le squelette de notre corps, en fait. Vous imaginez votre corps sans os, sans squelette? Vous ne seriez pas là. Hein. Il y aurait peut-être la vie, il y aurait peut-être tout le reste, les muscles, tout, mais il n'y aurait rien d'autre. Impossible de bouger. Impossible de se lever. C'est pareil avec l'Église. Il y a la vie, il y a la vie que Dieu donne, le Saint-Esprit, cet organisme vivant, et puis il y a la structure, ce qui aide, favorise le développement de cet organisme vivant. Ça, c'est une des conséquences aussi de cette alliance révélée. Dans le fait que nous avons envie d'obéir à cette loi et nous voulons obéir à cette loi, le fait qu'elle nous donne une totale confiance dans notre relation avec Dieu et le fait qu'elle crée un attachement particulier avec ceux qui partagent la même foi que nous, qui fait qu'on sent qu'on est dans un seul corps, qu'on est vraiment unis, qu'on est frères et sœurs. Et ça veut dire quelque chose. Ok, mes frères? Ok, mes sœurs? Revenons ensemble autour de la table de Sainte-Seine. Xavier va nous conduire dans ce moment.